Et dis Mimi, tu viens à la piscine avec moi ?
Ah non, je peux pas, j'ai agité du local.
Et c'est sur l'autre radio. Quelque chose a fait son effet ce matin, c'est la neige. La nature fait son spectacle, on aime ça, on s'en amuse. Heureusement, ça ne nous empêche pas de nous retrouver ici ensemble. Moi, j'avais envie de vous retrouver en tout cas. Ça, c'est une certitude. Et justement, quand on parle de certitude, eh bien parfois, on croit à tout comprendre, on croit que tout est à sa place, que les choses fonctionnent comme elles devraient. On compare, on relativise notre société. On n'est quand même pas les plus à plaindre. Oui, vous avez déjà entendu cette phrase et vous la dites peut-être vous-même. Pour moi, il y a quand même quelques sujets qui viennent fissurer toute cette certitude. Pour moi, il y a des portes pas faciles à ouvrir encore. Pas faciles, mais nécessaires. Notamment celle des violences conjugales. Je vous en ai parlé, je vous en parle encore aujourd'hui, puisque l'on revient une dernière fois sur le séminaire qui s'est tenu vendredi et samedi dernier à Château-Gontier, organisé par le centre hospitalier du Haut-Anjou sur cette thématique des violences conjugales. Alors aujourd'hui, on porte un regard pénal sur la question avec notre invité Benjamin Thibaudot, qui intervenait lui sur la question de l'obligation de signalement et le secret professionnel, puisque je vous rappelle, ces conférences étaient destinées aux professionnels et principalement aux professionnels de santé. Aujourd'hui, on en parle ensemble et on regarde ce qu'il se passe justement en cas de suspicion de violence ou en cas de constatation. On se demande légalement ce que vous et moi pouvons faire et surtout comment le milieu médical peut ou doit agir. C'est intéressant et donc on en parle dans quelques instants. Le jeudi, c'est aussi le jour du micro-trottoir dans cette émission. Je sors dans la rue, le micro en main, et je vais à votre rencontre. Et aujourd'hui, on parle d'objets. Je vous en dis pas plus, il faut rester à l'écoute de cette émission. Malgré la neige, on ne reste pas à Laval. On se rend ensuite à Nantes avec notre reportage Pensée locale de la semaine. On découvre Citadelle, un lieu ressource à Nantes pour les femmes victimes de violence, une structure que l'on retrouve sur l'ensemble du territoire d'ailleurs, mais aujourd'hui, le reportage nous fait sortir du département. Voilà, c'est le programme du jour. Bienvenue dans l'AJT du local. Je suis Margot et je vous propose de passer à l'entretien du jour. L'AJT du local sur l'autre radio. Bonjour Benjamin Thibaudot, vous êtes docteur en droit privé et sciences criminelles à l'Université du Mans, attaché de justice au tribunal judiciaire de Laval et chargé d'enseignement à la faculté de droit de Laval et de l'UCO d'Angers. Bonjour déjà et puis merci d'avoir accepté mon invitation.
Mais bonjour et merci beaucoup.
Alors aujourd'hui, on revient ensemble sur le séminaire qui a eu lieu vendredi dernier et samedi dernier au Rex à Château-Gontier, un séminaire organisé sur la thématique des violences conjugales par le centre hospitalier du Haut-Anjou. Vous avez tenu une conférence samedi dernier. Le thème de votre conférence était même précisément entre obligation de signalement et secret professionnel, puisque je le rappelle, ces conférences étaient principalement à destination des soignants, mais je suis très heureuse de pouvoir amener ces sujets à nos auditeurs et en parler aujourd'hui avec vous. Alors peut-être pour commencer, est-ce qu'ensemble, puisque vous apportez un regard plutôt pénal sur la question, est-ce qu'on peut réexpliquer ce qu'on entend par violence intrafamiliale ?
Oui, les violences intrafamiliales, ce sont toutes les, ça englobe toutes les violences commises au sein du couple, mais également envers les enfants. Et quand on parle de couple, on parle de conjoints mariés, de concubins, de personnes paxées, ou ayant été marié, concubin, paxé, ce qui comprend finalement aussi les ex, compagnons, compagnes, etc.
Et alors le centre hospitalier du Haut-Anjou s'est tourné vers vous pour cette thématique, puisque vous aviez déjà effectué un travail là-dessus.
Alors je pense que les organisateurs du séminaire cherchaient un pénaliste, donc un connaisseur en matière pénale, et j'avais travaillé sur ma thèse sur le secret professionnel appliqué au médecin légiste, donc à celui qui est habilité à constater les violences, qu'elles soient conjugales ou non. Donc le doyen de la faculté m'a gentiment proposé d'intervenir, et c'est un sujet qui me tenait particulièrement à cœur, puisque depuis que je suis attaché de justice, enfin juriste assistant au tribunal judiciaire de Laval, c'est vrai qu'en matière pénale et correctionnelle, on a beaucoup de cas de violences intrafamiliales. Donc c'est des choses auxquelles je suis confronté quasiment toutes les semaines.
Est-ce qu'on a des chiffres justement précisément qui peuvent illustrer un petit peu l'importance de ces violences-là ?
Oui, alors il faut savoir que depuis 2019, où le ministère de l'Intérieur recense les victimes de violences conjugales, donc c'est-à-dire les personnes qui vont déposer plainte dans les services de police judiciaire, les chiffres sont en constante augmentation de plus de 15% par an depuis 2019. Les derniers chiffres qu'on a datent sur l'année 2023, c'est 271 000 victimes de violences conjugales. Donc, on a enrayé un peu la hausse puisque c'est une hausse de 10% par rapport à 2022. Mais il faut aussi être conscient qu'à côté de ça, l'Observatoire des violences faites aux femmes estime qu'il y a 371 000 femmes victimes de violences, donc 100 000 quasiment de plus qui ne portent, elles, pas plainte. Et c'est une estimation. Donc là-dessus, difficile de connaître les vrais chiffres.
Est-ce qu'on a une explication de cette augmentation ?
Alors, je pense, d'une, il y a le Grenelle des violences conjugales qui a été lancé le 3 septembre 2019. Donc, c'est un sujet qui a été aussi pris un peu plus à bras-le-corps par les politiques. Dès lors, il y a une sensibilisation qui est faite et on incite peut-être plus les personnes à aller déposer plainte. Et puis, c'est, malheureusement, c'est aussi un sujet de société, c'est-à-dire que les couples, en tout cas, les difficultés... dans les couples font qu'il y a peut-être un peu plus de violence ou moi j'aurais peut-être plus de mal à expliquer, c'est des pistes plutôt personnelles sur ce point.
On le disait, ce séminaire sur la thématique des violences conjugales, des violences même intrafamiliales, était principalement à destination des professionnels, même des professionnels de santé. Quelles sont peut-être les obligations justement légales de ces professionnels face à des situations de violences intrafamiliales lorsqu'elles sont suspectées, constatées, comment ça se passe ?
Oui, alors il faut savoir que les professionnels de santé sont soumis au secret professionnel, donc le médecin, l'infirmier, etc. Donc ils ont obligation de taire toutes les informations personnelles de leurs patients, toutes celles dont ils ont connaissance dans leur activité. Le fait de divulguer un secret les rend... passible de poursuites judiciaires pour avoir enfreint le secret professionnel. À côté de ça, il y a des dérogations, et c'est là où l'obligation qui est faite au personnel de santé lorsqu'ils sont témoins de victimes conjugales, les textes ne posent pas une obligation de signalement. Alors en fait, il y en a une, c'est dès lors qu'ils ont connaissance d'un crime ou d'un délit et qu'ils sont agents de la fonction publique. Donc c'est-à-dire que déjà, ça ne concerne pas tous ceux qui travaillent en clinique privée ou les médecins libéraux, etc. Mais pour tous les fonctionnaires, ils ont une obligation de signalement. Le texte ne prévoit pas de sanction. Donc c'est une obligation, mais elle n'est pas sanctionnée. À côté de ça, l'article du Code pénal sur le secret professionnel prévoit des dérogations au secret professionnel, c'est-à-dire des cas où ils sont autorisés à divulguer des informations dont ils ont eu connaissance, et c'est notamment le cas dans les violences intrafamiliales, que ce soit sur les mineurs ou sur les majeurs.
Et alors, j'allais vous poser la question, que reste un professionnel qui choisit de ne pas signaler justement une situation suspecte ? Donc concrètement, les poursuites sont rares dans ce cas-là ?
Exactement. Le texte n'obligeant pas, entre guillemets, à signaler, il est difficile de poursuivre un professionnel. Et il faut savoir qu'en plus, dans les faits, c'est très très peu mis en pratique. Il y a très peu de poursuites envers les professionnels de santé. Il faut savoir que la sanction pénale de la violation du secret professionnel, c'est 1 an d'emprisonnement, 15 000 euros d'amende, mais il n'y a pas de sanction dans le fait de ne pas divulguer. En revanche, on pourrait aller sur le terrain de la non-assistance à personne en danger si on arrive à prouver que la personne était vraiment en danger, que le médecin aurait pu lui éviter cette mise en danger, etc. Enfin, le médecin ou le personnel de santé.
Ce séminaire était donc aussi l'occasion pour ces professionnels de santé de poser des questions sur les thématiques abordées. On a pu constater que finalement, cette position du soignant, quand il constate, quand il suppose des violences conjugales, elle est vraiment complexe, cette position-là. C'est pas évident.
Oui, vous avez tout à fait raison. Enfin, le droit ne règle pas tout, la loi ne règle pas tout, et au contraire, ça a été un peu le contenu de mon propos, c'est de dire qu'entre le droit et la pratique, il y a une grande différence, et notamment, elle est pour ces personnels soignants qui ont, eux, un lien avec leurs patients. Et la question du signalement, c'est aussi se poser la question, est-ce que je romps ce lien de confiance ? Puisque si la personne me donne son accord pour un signalement, je suis dans l'accompagnement, la bienveillance, il n'y a aucun souci. Si en revanche elle refuse, mais j'estime qu'elle est mise en danger, qu'elle est mise en péril et que je dois tout de même signaler, se pose la question de cette rupture de lien de confiance. Et en plus, j'ai envie d'aller plus loin et de dire, mais est-ce qu'un signalement va vraiment protéger la personne ? Est-ce que des fois, c'est pas aussi la mettre un peu plus en danger ? Et c'est ce que certains professionnels de santé, la doctrine médicale a dit, c'est-à-dire que signaler peut aussi provoquer des morts, ne pas le faire aussi. Donc là, c'est vraiment un cas de conscience pour les professionnels de santé.
Est-ce que le système aujourd'hui justement est assez réactif en cas de signalement lorsque par exemple un professionnel médical signale et ressent un grand danger pour la personne?
Alors, il faut savoir déjà qu'il y a beaucoup d'outils qui ont été mis en place pour les professionnels de santé, pour les guider dans leur prise de décision. Il y a un vademécum des violences conjugales qui a été créé suite au Grenelle des violences conjugales, avec finalement des questionnaires et des indices à recueillir pour aider le professionnel de santé dans sa prise de décision. Et par la suite, il y a aussi un arsenal de répressif et de protection des victimes qui est un peu plus étoffé ou surtout en pratique mieux appliquée, avec notamment par exemple des ordonnances de protection, des mesures d'éloignement du conjoint violent, du domicile notamment, et ensuite toute une série de dispositifs qui vont permettre cet éloignement physique, comme les bracelets anti-rapprochement, qui permettent de créer une zone autour de la victime dans laquelle à chaque fois que l'auteur va rentrer, il fera sonner une alarme et il sera sommé de sortir de cette zone sous peine après de poursuite.
L'efficacité justement de ces différents dispositifs est prouvée, reconnue aujourd'hui?
Alors, c'est pareil, je suis que juriste assistant, donc je travaille avec les magistrats, mais c'est eux qui répondraient sans doute mieux à cette question, avec notamment aussi la police judiciaire, enfin les officiers de police judiciaire. Mais en tout cas, moi j'ai l'impression que ces bracelets anti-rapprochement fonctionnent. Il y a un vrai suivi quotidien avec notamment aussi le SPIP, le service pénitentiaire d'insertion et de probation, qui fait un vrai travail sur le terrain. Et puis il y a des outils juridiques dont se saisissent un peu plus les magistrats et à la demande des victimes, notamment l'ordonnance de protection qui est quand même une mesure qui a son efficacité.
On peut peut-être également dire quelques mots sur l'accompagnement des victimes après le signalement. Il y a des structures, des associations qui existent et puis qui sont présentes pour justement être auprès des victimes.
Exactement. En Mayenne, il y a l'association VPP 53 qui a pour but d'accompagner toute personne victime d'une infraction pénale. Qu'il se dit victime d'une infraction pénale, et je crois qu'ils en parleront mieux que moi, mais j'étais avec eux samedi matin, donc je vais pouvoir relayer, j'espère, sans déformer leurs propos. Leur objectif, c'est de dire finalement, quand bien même la personne n'a pas déposé plainte, mais qu'elle se sent victime d'une infraction, ils sont là déjà d'une pour l'écouter, puisqu'il y a un accompagnement aussi psychologique qui est mis en place. Ils travaillent avec des psychologues. Et un accompagnement juridique aussi pour l'accompagner dans peut-être les suites à donner et les démarches à opérer.
J'ai envie de vous poser la question avec votre expérience. Est-ce que vous avez constaté concrètement des cas où le signalement a véritablement permis de sauver une personne en danger? De l'extérieur, on ne se rend pas bien compte.
Non, alors moi je ne vais pas vous mentir. Dans ma pratique au tribunal judiciaire de Laval, je n'ai à l'heure actuelle pas vu de signalement par un professionnel de santé. On a plutôt affaire aux fiches d'informations préoccupantes, ce qu'on appelle les FRIP, qui peuvent être rédigées, mais c'est surtout sur les violences constatées sur les mineurs, sur les enfants scolarisés ou accompagnés par l'aide sociale à l'enfance.
Et à l'inverse, j'ai envie de vous demander, pour qu'on se rende aussi compte, quelles peuvent être les conséquences d'un signalement tardif ou d'un non-signalement?
J'ai envie de vous dire que malheureusement, le sujet des violences intrafamiliales, il n'est pas récent et que malgré les mesures qui se sont mises en place, même dans le suivi de certaines personnes condamnées pour violence et même pour récidive de violence, on les retrouve encore au tribunal de manière, entre guillemets, trop régulière. Pour ça, il faudrait quasiment un policier derrière chaque auteur ou derrière chaque auteur potentiel pour vérifier. Puisque même quand il y a des mesures judiciaires qui sont prononcées, des interdictions de paraître au domicile, des interdictions de contact avec les victimes, sur des années, hein, parce qu'il peut y avoir un sursis probatoire ou autre, il y a des violations d'interdiction, on va pas dire constantes, mais c'est quand même très régulier.
Et la récidive est fréquente, ou justement l'accompagnement aussi? Parce que là, on parle des victimes, mais il y a aussi les auteurs. La justice, est-ce qu'elle prévoit un accompagnement? Souvent, il y a des obligations de soins, j'imagine, de stipuler dans les condamnations.
Vous avez raison. Dans le cadre de condamnations avec des sursis probatoires, il y a souvent des obligations de soins, des obligations de stage pour aller voir un stage sur les effets des violences conjugales, hein, des violences intrafamiliales. Et il y a un suivi qui est fait. Alors, il faut savoir que les sursis probatoires sont entre 18 mois, 24 mois, voire 3 ans en cas de prolongation. Et pendant toute cette période, les condamnés sont accompagnés par le SPIP, le service de probation et d'insertion, et rencontrent parfois le juge de l'application des peines qui veille au respect de ces mesures. C'est là où je vous disais, pour autant la récidive elle est réelle et l'obligation de soins elle ne règle pas tout et je pense que c'est aussi un sujet qui tient à cœur à certains magistrats. Il faut quand même savoir que, je vais englober toutes les violences mais aussi beaucoup les violences intrafamiliales, c'est quand même très très majoritairement sur fond d'alcool ou de stupéfiants. Donc c'est suite à des addictions qui sont la violence est la conséquence d'une addiction non réglée.
En échangeant là avec vous, ça me vient, quand on parle de violence intrafamiliale, donc on peut parler de violence physique, mais il y a aussi toutes les violences psychologiques. C'est quelque chose dont on entend plus parler aujourd'hui. Le terme d'emprise revient aussi souvent. Est-ce que le cadre juridique encadre aussi bien et reconnaît bien ces violences-là?
Oui, le cadre juridique, derrière le terme de violence, on intègre aussi bien les violences physiques que les violences psychologiques. Le code pénal régit les violences de manière il hiérarchise les violences avec ce qu'on appelle l'ITT, l'incapacité totale de travail, qui malheureusement porte très mal son nom puisque ça n'a rien à voir avec le travail. Un mineur, une personne retraitée peut avoir une ITT, mais c'est pendant la période pendant laquelle la personne ne va pas pouvoir vaquer seule à ses occupations, pendant laquelle elle va entre guillemets avoir un traumatisme des suites d'une violence. Il faut savoir que la violence psychologique ne se voit pas en effet physiquement, mais pour autant les conséquences peuvent être réelles. Des troubles du sommeil, des angoisses, avoir un vrai syndrome d'angoisse. Et ça, les médecins le constatent et le prennent en compte dans la fixation de l'ITT.
Alors si on revient directement sur le séminaire, sur la conférence que vous avez tenue donc samedi dernier auprès du personnel médical à Château-Gontier, au Rex, est-ce qu'il y a eu des questions particulières de poser sur la thématique que vous ameniez ?
Non pas que j'ai été très, très précis et performant, mais c'est pas qu'il n'y a pas eu de questions, c'était plus sur des cas concrets qu'ils ont rencontrés dans leur pratique avec des vrais questionnements, par exemple des sages-femmes qui posaient la question du statut de la femme enceinte, c'est-à-dire mais comment était pris, comment le droit se saisit du statut de la personne de la femme enceinte, aussi bien pour la femme enceinte que pour le fœtus qu'elle porte. Et là, la réponse, elle est que la femme enceinte est une personne vulnérable au sens du droit pénal et donc c'est une circonstance aggravante qui peut avoir pour effet donc d'aggraver la peine encourue en cas de violence. Mais en matière de secret, qui était l'objet de l'intervention, il n'y avait pas de changement entre une femme enceinte et une femme non enceinte. Et d'ailleurs, on parle souvent des violences conjugales et des femmes, mais il y a aussi quelques hommes qui sont victimes de violences conjugales. Et ça, on en parle peut-être un peu moins parce que c'est vrai que c'est une grande minorité, mais ça existe.
C'est un sujet qui est encore tabou, justement. Les témoignages sont encore...
Alors, c'est vrai que c'est peu fréquent et peut-être aussi que les hommes portent moins plainte. Moi, j'ai aucune difficulté sur ce point, mais c'est vrai que oui, c'est peut-être encore un peu tabou.
Quel conseil est-ce que peut-être vous donneriez pour terminer une personne témoin de violences intrafamiliales, mais qui ne sait pas forcément comment réagir ou à qui s'adresser ? Quand il y a un doute, une suspicion.
Alors, c'est une très bonne question. Il faut savoir que dans notre table ronde, donc, il y avait l'association VPP 53, mais il y avait là aussi la Jeune Chambre économique qui a pour projet de créer une bande dessinée sur les violences conjugales qui s'adresse aussi bien à la victime, à l'auteur qu'aux témoins. Et c'est vrai qu'ils ont abordé ça et même moi, à les écouter, j'avais hâte de lire cette BD qu'ils envisagent de sortir en septembre 2025. Mais c'est pareil, ils en parleront mieux que moi. Mais avec les conseils. Les conseils, ils sont plus personnels. Et en fait, je me mets dans cette situation. Si j'étais témoin de violences conjugales, je pense que j'orienterais la victime vers des personnes qui sont plus compétentes que moi, à savoir l'association VPP 53, ou justement des professionnels soignants et qualifiés pour les accompagner, pas seulement parce que la prise en charge judiciaire, d'accord, allait dire à la personne porter plainte, mais en fait c'est peut-être trop facile juste de dire ça, il faut peut-être une préparation à aller porter plainte, il faut aussi surtout sortir de ce climat de violence et de cet environnement violence, et je pense que tout ça peut pas être fait juste avec une parole, mais plutôt avec un accompagnement un peu plus profond.
Eh bien, merci Benjamin Thibaudeau d'avoir été avec nous aujourd'hui pour aborder cette thématique entre obligation de signalement et secret professionnel. Je le rappelle, vous êtes docteur en droit privé et sciences criminelles de l'Université du Mans, attaché de justice au tribunal judiciaire de Laval et chargé d'enseignement à la faculté de droit de Laval et de l'UCO d'Angers. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Mais merci à vous pour votre invitation.
Alors maintenant, j'ai envie d'une petite escapade en altitude. Est-ce que vous me suivez ? On écoute « Neige éternelle » d'Oscar Les Vacances.
Elles sont les étoiles, j'ai perdu le nord, j'ai oublié les fables. Pourquoi on boit du chlore? Pourquoi j'ai peur? Où sont les conifères? Pour qui bat mon cœur? Où sont les derniers mystères? Où sont les oiseaux? J'attendrai la pluie, elle brûle ma peau. Je dors plus la nuit, pourquoi j'ai plus confiance? Au soleil j'ai froid, pourquoi les gens dansent? Pourquoi pas moi? Où meurent les pigeons? Où meurent les questions? Pourquoi j'ai mal aux doigts? Papy, tu me reconnais pas, comment être isil dur? Comment parler aux morts? J'ai jamais cru au futur, pourtant j'existe encore. Je mange un Mikado, alors qu'il y a des cerises. Pourquoi mon ego? C'est la tour de Pise. Que devient Irène? Que devient Céline? J'ai mis MSN, ils sont tous hors ligne. Pourquoi j'ai 28 ans et j'en parais 12? Pourquoi t'as 30 ans, t'en parais 72? Où sont les fruits de Calabre? Où sont les condamnés? J'ai pleuré pour un arbre, j'ai dormi à côté. Elles vont bientôt couler sous les pontons, les neiges éternelles et l'odeur de tant de Gisèle. Que restera-t-il dans nos vieilles maisons, nos peurs dans les fentes et nos amours qui chantent? La la la, la 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 la. Des questions, j'y réponds jamais. Pourquoi j'ai peur des frelons? Ils m'ont jamais piqué. Pourquoi on garde l'heure, pas la réalité? Pourquoi un jambon beurre pour mamie c'est végé? Pourquoi mes yeux tremblent? Pourquoi mes mains tremblent? Pourquoi on s'aime bien alors qu'on se ressemble? J'ai jamais dit maman, j'ai jamais dit papa. La première fois que je l'ai fait, c'était dans une chanson. Comment on fait un tyran? Comment on fait un panda? Est-ce que si je perds une dent, je perds une partie de moi? Pourquoi j'ai comme 5 ans, je fais encore des bulles? J'ai gobé un flan, pourquoi les champs brûlent? Est-ce que les gens vivaient avant les stories? Est-ce qu'ils auraient pleuré devant l'historique? Pourquoi je t'ai regardé? Pourquoi t'as souri? Pourquoi j'ai bloqué quand t'es reparti? Les neiges éternelles et l'odeur de tant de Gisèle. Que restera-t-il dans nos vieilles maisons, nos peurs dans les fentes et nos amours qui chantent? La la la, la 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 la.
De retour dans l'agité du local sur l'autre radio 107.9 à Château-Gontier et 101.7 à Laval. Alors maintenant, on se rend sur l'île de Nantes, au dernier étage d'un immeuble de bureaux. On se rend à Citadelle, qui propose aux femmes victimes de tout type de violence un lieu d'échange, d'écoute et d'aide. Associations, professionnels de santé ou avocats permettent à la ville de Nantes d'améliorer la prise en charge des femmes sur le territoire. Alors à l'occasion de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, le 25 novembre, Margot Kerlerot de Rosebeau pour Euradio en a visité les locaux. Écoutez.
Pensée locale, un enjeu de société. Une émission des radios associatives des Pays de la Loire.
lutte contre les violences conjugales, le cyberharcèlement ou encore les violences gynécologiques, Citadelle, rattachée à la ville de Nantes, est un lieu qui accueille, protège et accompagne des femmes victimes de tout type de violences depuis 2019. En 5 ans, plus de 5500 femmes sont venues trouver de l'aide au 7e étage de cet immeuble situé sur l'île de Nantes.
Allons-y.
Ici, la discrétion est de mise. Derrière les lourdes portes sécurisées, les victimes sont accueillies dans des bureaux fermés par deux agents d'écoute et d'information, comme Maëva.
Donc, l'émission principalement à l'accueil, ça va être de l'accueil physique des femmes et l'accueil téléphonique. Et comme je disais, on s'occupe un petit peu aussi de l'organisation des salles. Quand les femmes arrivent à Citadelle, elles sonnent en bas de l'immeuble et c'est un agent de sécurité qui leur ouvre. Ensuite, elles préviennent l'agent de sécurité qu'elles ont rendez-vous à Citadelle. Et ils nous préviennent via le talkie-walkie. Et là, on fait monter la femme et ils bipent pour qu'elle puisse monter directement. Et comme ça, elles ne croisent personne d'autre et nous, on est là pour les accueillir à l'arrivée.
Fauteuil confortable, miroir au mur, espace spécialement aménagé pour les enfants. Rien ne laisse deviner les drames racontés autour des tables rondes. Caroline Godard, responsable de Citadelle, s'occupe de la visite.
L'idée du lieu, c'était d'avoir un lieu, un peu un lieu de vie, un lieu cocon pour les femmes et leurs enfants. L'aménagement du lieu a été fait en concertation du coup avec les partenaires du territoire et en lien avec une architecte qui était sensibilisée à cette thématique. Il y a eu un travail aussi sur la sonorisation du lieu et un travail sur la luminosité également.
Après un premier temps d'accueil, les femmes sont dirigées vers des coordinateurs et coordinatrices de parcours.
Cette coordinatrice ou ce coordinateur de parcours a deux expertises. D'une part, la première écoute, le premier accueil de la femme et l'évaluation de ses besoins et donc l'orientation vers les opérateurs, donc associations et institutions du territoire qui viennent faire des permanences ici ou vers des partenaires du territoire sur le territoire. Et également, il y a une expertise d'accompagnement du coup, et de conscientisation des violences par la femme. Et donc, ça peut être un accompagnement sur le long cours.
Alexandre, coordinateur de parcours à Citadelle.
Une journée type, c'est soit un rendez-vous de premier accueil. On essaye de se limiter un par jour parce que c'est assez, ça peut durer longtemps, c'est assez prenant. Des rendez-vous de suivi, des écrits, des comptes rendus d'entretien, soit des fiches de transmission pour les opérateurs opératrices, soit des écrits, par exemple, des attestations détaillées à fournir pour les avocats ou les avocates des dames. Des échanges aussi souvent avec les partenaires. Je mets en lien des fois avec les avocats aussi ou les avocates, parce que les dames peuvent les rencontrer ici, mais après, l'accompagnement juridique se fait à l'extérieur de ce côté-là. Voilà à peu près.
De nombreux acteurs du territoire s'organisent ici pour faire de Nantes une ville non sexiste. Une équipe de 22 professionnels travaille de concert, de jour comme de nuit, pour répondre au mieux aux demandes et aux besoins des victimes. Caroline Godard, responsable de Citadelle.
Ici, on a des bureaux d'opérateurs, donc un bureau partagé pour les psychologues de SOS Inceste et France Victimes, parce que du coup, il y a un équivalent temps plein de psychologues, et puis un équivalent temps plein juriste aussi, partagé entre le CIDFF et France Victimes. Et puis pareil, des bureaux d'opérateurs partagés entre l'étape, le barreau de Nantes, parce qu'il y a des avocats qui viennent du coup sur une permanence, on a un marché public avec le barreau de Nantes, police et gendarmerie à la demande pour les dépôts de plaintes. Il y a la CAF aussi qui peut venir, il y a un psychiatre du coup qui est mis à disposition par le CHU à 20% du coup. Et puis on a le bureau aussi de la sage-femme mis à disposition par le département à 50% et planning familial qui vient faire des ateliers ici. Et puis on a aussi l'assistante socio-éducative qui est mise à disposition par le département également à 100%. La sage-femme de la santé sexuelle, santé globale. Et puis le psychiatre vient pallier aussi, faire de l'évaluation pour certaines femmes et pallier une potentielle rupture de sang pour d'autres femmes.
Environ 95% des femmes viennent du département de Loire-Atlantique, dont 80% de la métropole de Nantes uniquement. Parmi ces femmes, les trois quarts ont moins de 45 ans et 80% sont des victimes de violences conjugales, même si ici, aucun critère géographique ni aucun type de violence spécifique ne sont requis pour se faire aider.
C'était un lieu nécessaire et c'est un lieu où aussi on retrouve la question de la pluridisciplinarité. Et donc, ça permet à l'ensemble du territoire de participer à ce lieu tout en gardant leur fonctionnement propre. Et d'ailleurs, depuis l'arrivée de Citadelle sur le territoire, la prise en charge des associations n'a pas baissé. Donc, ça veut dire que c'est une entrée de plus sur le territoire et une entrée lisible et visible sur le territoire. Et ça, c'est bien. Mais que le territoire participe activement de cette lutte globalement.
C'était Pensée locale, un enjeu de société. Une émission de La Frappe, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire. Un reportage de Margot Carlereau de Rosbeau pour Euradio.
Alors c'est une séquence que l'on retrouve chaque jeudi dans l'agité du local. C'est maintenant le micro-trottoir de la semaine.
Même dans la rue, on ne peut plus avoir la paix maintenant.
Vous êtes du quartier ?
Silence ! Chaque bruit compte dans le silence. Un oiseau qui s'éveille, une branche qui craque, un chevreuil qui s'enfuit.
Je me demande si on se confie mieux à quelqu'un qu'on connaît pas bien.
Alors cette semaine, j'ai voulu questionner notre matérialisme et notre rapport aux objets. Et pour commencer, je vous ai posé la question, quel objet compte le plus pour vous ? Quel est le plus précieux que vous possédiez ?
Une carte Pokémon que j'ai eue quand j'étais tout petit et que maintenant elle a pris beaucoup de valeur et j'y tiens parce que aussi c'est une carte qui est sentimentale pour moi. Un Aquali de 1995.
Je sais pas si on peut... C'est même pas un objet mais je dirais ma famille.
C'est un objet que mon arrière-grand-père il m'avait donné. Bah c'est un tout petit truc, un tout petit badge, mais du coup bah je l'ai gardé.
La montre que mon père m'a offert, parce que, alors forcément elle a d'abord une valeur monétaire bien sûr, mais c'est tout d'abord une valeur sentimentale parce que c'était quelque chose auquel je suis très attaché et auquel mon père a tenu pendant des décennies.
Mes enfants.
Une fleur en cristal, offerte par mon arrière-grand-père quand je suis née. Je suis toujours exposée dans ma chambre, elle a jamais partie, toujours restée là.
Mon album de famille je pense, de photos.
Et ensuite, un peu curieuse, j'ai voulu vous demander quel est l'objet que vous regrettiez le plus d'avoir perdu ou donné.
Pareil, une carte Pokémon qui a pris, qui coûte plus de 1000 euros aujourd'hui et que j'ai vraiment regretté vraiment beaucoup de l'avoir échangé.
Mais je suis le char de chez le coiffeur là.
Moi, j'aurais dit un téléphone que j'avais trouvé à la piscine. Je l'aurais bien gardé.
Moi, des AirPods, j'en avais deux, donc j'en ai donné et après je les ai cassés. Donc j'ai dû en racheter.
C'est rare que je regrette. Honnêtement, quand je donne, c'est par plaisir. Donc, regret, pas de regret, non.
Un couteau, peut-être. De poche.
Mes AirPods qu'on m'a volé.
Mes doudous que j'ai mis sur Vinted, je regrette, en vrai. En fait, je les aimais bien.
Et puis, comme les objets sont parfois à notre image, vous avez répondu à la question de l'objet qui vous représentait le mieux.
Une canne à pêche.
Moi, je dirais une hache. C'est un peu un objet qui fait penser aux brutes. Et je suis un peu une brute.
On doit avoir peur dans l'aval ou pas ?
Non.
Moi, un skateboard.
Le crayon pour son universalité, parce qu'il peut à la fois écrire, mais servir de règle quand on en a un deuxième. Tout comme je peux m'atteler à une tâche et lorsque le besoin s'apprête, je suis prêt à me dévouer à une autre.
Un chien.
Pour moi, je dirais des bijoux, parce que j'aime tout ce qui est boucles d'oreilles, collier, bracelet.
On me dit toujours que j'utilise le téléphone, donc je dirais le téléphone, ouais.
Et puis pour terminer, alors que Noël est déjà partout, je me suis dit que c'était une question que l'on pouvait peut-être déjà aborder ensemble. Je vous ai demandé pour vous, quel était le cadeau idéal et peut-être un peu original pour votre amoureux ou votre amoureuse ?
Un voyage inattendu.
Des chaussettes avec la tête de mon chat dessus. Ça, c'est très drôle, j'ai bien aimé.
Mais version couple où on met la photo de notre copain ou notre copine sur un t-shirt et on dit « je suis le meilleur copain du monde » ou des trucs comme ça.
Ça va, c'est pas trop possessif ça ?
Oh, si ça va aux deux personnes.
C'est plus stylé les choses qu'on vit, donc du coup, un son parachute à deux.
J'irais une plante verte, en mode, elle fait un peu le décor.
Ah oui.
J'ai déjà vu ça. Enfin, c'est un peu négatif.
Un cactus, ça fait comme si, dans le mauvais cas, comme si tu voulais la quitter, quoi. C'est un peu, si tu veux la quitter, tu lui offres un cactus.
Franchement, j'ai toujours des basiques, parfums, sous-vêtements... Coque de téléphone, il y a des petits bijoux, on a eu. Original, non. Rien de très original, parce que généralement, c'est moi qui décide le cadeau qu'on m'offre. Donc.
Quelque chose de personnel, faut pas que ça soit quelque chose d'impersonnel. Bon, en faisant simple, c'est l'intention qui compte lors du cadeau. Alors, faut trouver quelque chose qui plaît, mais pas pour que ça soit utile à la personne, mais pour montrer qu'on comprend la personne et qu'on sait vraiment ce qu'elle veut.
l'agité du local sur l'autre radio. Et alors, on va bientôt terminer cette émission, mais avant, on fait une pause musicale avant de retrouver d'ailleurs un dernier un témoignage à l'occasion de la Journée internationale des violences faites aux femmes. Mais avant ça, avant leur concert ce samedi au Théâtre de Laval avec le 6x4, je vous propose un avant-goût du voyage musical que propose Aïdouti Orchestra. On écoute tout de suite Le Grand Voyage. À l'occasion des actions menées autour de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes sur Laval Agglo, 11 témoignages écrits de femmes ont été recueillis par l'autre radio et ensuite été lus par les membres de l'équipe sorcière. Aujourd'hui, c'est Aurélie Garabello qui prête sa voix à ce témoignage. Écoutez.
Le 25 novembre, c'est la Journée internationale de lutte pour l'élimination des violences faites à l'égard des femmes.
Vous me voyez dynamique, forte, attentive aux autres. Moi, je me savais fragile, mais sans comprendre pourquoi, sans l'écouter. Dissociation. Il est de ces états que seules les victimes connaissent. Mais dans cet état, justement, il est impossible de se dire, de ressentir les émotions, de se souvenir, de se penser, puisque seule l'amnésie m'a permis de survivre à ce viol, à cet inceste. 4, 6, 8 et 15 ans. Ce sont les âges où je suis maintenant certaine d'avoir vu les violences sexuelles de mon père sur mes frères, puis de les avoir subies moi-même. Sans parler de la violence psychologique, quotidienne, que cela implique dans le silence. Le silence qui est la règle d'or. Tais-toi et va bien. La seule injonction parentale. 30 à 20 ans aura été le temps de l'amnésie totale. Encore 7 ans pour oser se faire aider, questionner. Encore 4 ans pour oser dire une première fois, sans y croire. Et encore 2 ans pour oser affronter ces souvenirs vrais. Maintenant, je suis là. Certes, encore un peu, beaucoup, dissociée, mais bel et bien là, m'acceptant, me respectant. Alors, je n'ai qu'une envie, ne plus jamais lâcher la main de mon autre part pour vivre ensemble, enfin.
L'agité du local s'arrête ici. Merci à Benjamin Thibaudot d'avoir été avec nous aujourd'hui. Votre émission quotidienne s'arrête ici, mais ça continue sur les ondes de l'autre radio. Et alors, c'est musical aujourd'hui. Votre soirée commence avec Gold Soul Theory. Alors, vous le savez, la soul musique est née à la fin des années 60. Elle prend ses racines du gospel et du rhythm and blues. Justement, c'est ce que nous raconte cette émission. Et alors, elle est d'ailleurs concoctée par deux souliveurs, Yoko et Moot, qui ont pour modeste ambition de vous faire redécouvrir ou découvrir les standards et les autres pépites de la soul music. Ça commence à 19h. Ensuite, à partir de 21h, on retrouvera All Blues et aujourd'hui, c'est une émission 100% en français. Moi, je vous dis à demain pour la dernière émission de la semaine. Le vendredi, vous le savez, c'est le grand format. C'est un format qui prend son temps. On se retrouve pour la dernière émission de la semaine. D'ici là, profitez de la journée, profitez de la neige, s'il vous plaît, faites-le bien.
Oh, c'est déjà la fin. Bah, qu'est-ce qu'on va faire maintenant?
Mimi, il y a d'autres émissions qui sont bien aussi sur l'autre radio.